Il n'est pas toujours évident de vivre les fêtes de fin d'année sans entrer dans des zones conflictuelles, même en famille. C'est pourquoi, pour vous aider à mieux vivre vos fêtes, à mieux en profiter, je vous propose ce podcast d'aujourd'hui. Je m'appelle Pascal Kionkion, votre coach thérapeute. Je vous accompagne chaque semaine et même pendant les fêtes pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, bonjour les futurs fêtards, puisque Noël et le jour de l'an arrivent. Alors, comme chaque année, il y en a 8 jours d'écart. Et je sais que c'est une période qui est particulièrement heureuse pour beaucoup, parce qu'on va retrouver des personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps. Particulièrement à Noël en général, on va prendre du temps avec sa famille, on va pouvoir rappeler des souvenirs, échanger, rigoler, se remémorer des pages de l'histoire. Et en même temps, c'est ce qui fait que ça peut être un moment magnifique, très heureux, et un moment difficile pour d'autres, parce que, comme je viens de l'évoquer, eh bien on va rouvrir des pages de l'histoire, j'allais dire feuilleter l'album familial ou l'album événementiel quand on est même avec des amis, et parfois aller gratter des pages de souvenirs qui sont teintées d'une certaine douleur, d'une honte, d'une gêne, de jalousie, de violence, de colère, de tristesse, de honte, même si on va s'appliquer, je dirais, parce que on est dans un mode où on va consciemment, généralement, chercher à s'appliquer en feuilletant l'album des souvenirs, en ne focalisant l'attention que sur les belles photos, celles sur lesquelles on sourit. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la plupart des photos qui sont dans nos albums sont des photos sur lesquelles on sourit. Comme si on veut envoyer un message. Je dis comme si, mais vous savez que c'est pas comme si, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. On veut envoyer un message, on veut transmettre une image identitaire. Je suis en relation avec l'être, dans un moyen qui consiste à faire. Alors, si vous voulez mieux comprendre ce que j'évoque, allez écouter le rendez-vous de la semaine dernière. Donc, dans le faire, on va essayer de matérialiser de l'être, et en même temps, on sait que c'est pas tout à fait évident. Donc, comme la personne qui lira la photo sera devant une image passive, on voudrait qu'elle ait une image de nous, de notre être, qui soit satisfaisante. C'est la raison pour laquelle on va faire mine de sourire, même si, sur le moment, franchement, on n'aurait pas envie de sourire. Et c'est pas toujours évident, mais on va dans la convention sociale se dire « sourions » pour aller donner une bonne ambiance pendant le moment où, enfin, ou au moment où la personne regardera la photographie. Cette ambiance que nous cherchons à mettre pendant les fêtes avec ces sourires de façade, parfois on a essayé de laisser à la maison les bagages douloureux de notre enfance, adolescence, etc., en espérant qu'ils ne seront pas évoqués de nouveau pendant le repas, pendant un jeu, pendant un apéro, pendant un moment de vie conviviale, sans pouvoir être certain de cela. Et c'est la raison pour laquelle, par moment, on va dire suite à une maladresse, on va l'interpréter comme ça avec un jugement, je voudrais que vous soyez conscient que cette expression est teintée d'intention, donc suite à une maladresse, on va être témoin de quelqu'un qui a verbalisé quelque chose, qui a eu un comportement qui va déclencher la tornade, la réaction, la surréaction de l'un ou de l'autre. D'ailleurs, je regarde ça avec un certain sourire, dans la mesure où ce week-end, j'ai vécu deux expériences qui rappellent cette réalité possible d'une tornade qui se déclenche, ou bien d'un gouffre qui s'ouvre tout à coup avec une personne qui disparaît, qui a envie de se cacher, de ne plus être là, avec une amie à laquelle j'ai dit quelque chose et qui m'a répondu « Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Et dans sa réponse, vous entendez qu'elle a voulu me dire que quelque chose n'allait pas. Elle voulait absolument que je prenne conscience que mon propos l'avait chamboulé, de manière rationnelle, qu'elle s'était chamboulée avec mon propos, parce que mon propos aurait pu, en d'autres circonstances, dans d'autres contextes, pour faire référence à ce que nous avons évoqué pendant les 15 derniers jours, ne pas déclencher ça chez elle. Donc elle a utilisé ça pour déclencher quelque chose, pour raviver quelque chose, une souffrance qu'elle a manifestée à ce moment-là en disant « oui, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon ». En veillant bien entendu à ce que je comprenne très bien de quoi il était question, parce qu'elle aurait pu mettre un sourire de façade comme on l'a dit tout à l'heure, en veillant à ce que je sois complètement ignorant de sa blessure du moment. Mais elle a voulu me transmettre un message. C'est super intéressant de s'arrêter sur cela, c'est-à-dire que quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un est blessé pendant les fêtes, comme ça risque d'être le cas, comme ça sera peut-être le cas dans votre famille, dans votre proximité, même si je ne le souhaite pas, bien entendu, ben, c'est intéressant d'entendre que la personne a voulu nous dire quelque chose. Elle n'a pas voulu seulement vivre sa blessure dans son intérieur, dans son intimité, mais elle a voulu émettre un message pour dire quoi ? Je vous laisse juste quelques secondes pour commencer à répondre à cette question, même si vous avez quand même, si vous êtes habitué à être au présent, pas mal d'éléments, de pistes, de réponses pour vous aider à comprendre ce que la personne veut dire quand elle dit « aïe ». Alors on va dire, mais quand on dit « aïe », bah c'est normal, c'est un phénomène naturel, un réflexe, mais ce n'est pas que ça, ça veut dire qu'on veut émettre un message. Autrement, on ne dirait pas « aïe », on dirait autre chose. Donc là, on est sur une émission de message qui veut verbaliser un besoin. Je veux que tu prennes conscience que tu n'as pas répondu à mon besoin. Je veux que tu prennes conscience que mon besoin n'était pas du tout celui-ci. J'avais besoin d'autre chose. Et ta réponse, ta remarque, ton attitude, ta posture va en opposition, en disjonction avec mon besoin. Donc, je veux que tu le saches, en fait. Entendons bien que la personne tient à ce qu'on le sache. Ça veut dire que si elle nous le confie, et je fais exprès d'employer ce verbe-là, c'est qu'elle veut nous donner quelque chose. Si elle veut nous donner quelque chose, mieux vaut le prendre. Parce qu'en fait, symboliquement, cette chose que l'on prend est une chose qui lui appartient, cette personne, vu qu'elle nous le confie. Ça veut dire qu'elle veut nous le donner, qu'elle veut créer du lien. C'est pas forcément évident de le lire comme ça, parce qu'on a l'impression que quelqu'un nous dit « Non, ça va, ça va, ça va, elle nous rejette. » En fait, elle ne nous rejette pas, elle rejette le vécu qui est le sien à ce moment-là, mais elle veut créer du lien, sans quoi elle aurait vécu autre chose. Elle serait partie, elle aurait fait mine de avant de prendre distance, etc. Donc le fait qu'une blessure, une souffrance, une situation mal vécue favorise l'émission d'un message est une volonté, même si elle est partiellement inconsciente, de créer du lien, de garder la relation, de proposer une voie, V-O-I-E, qui soit en mesure d'être empruntée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir marcher dessus, piétiner ensemble pour arriver ailleurs que là où, a priori, on est actuellement. Cette capacité à regarder les choses comme ça, à regarder la personne comme ça, en disant « je sens que tu me demandes, tu me proposes de prendre un autre chemin, tu voudrais qu'on le prenne ensemble. Alors je viens le prendre avec toi », est pour moi une chose qui est nécessaire d'être entendue. Et c'est ce qui s'est passé ce week-end, c'est que je suis venu vers cet ami, en déposant ce que j'étais en train de faire, et après avoir mis ma main sur son épaule, je lui ai dit « je sens, tu te sens blessé par ce que j'ai dit et je suis vraiment désolé avant tout parce que tu entends bien que ma démarche n'avait pas l'intention de te blesser. » Donc cette première démarche, elle a permis rapidement à la personne de se dire 1. Je suis entendu. 2. Il a compris que je voulais que nous revenions sur un chemin, sur une voie qui nous corresponde à tous les deux, dans lequel la relation est fluide, même si sur le moment, mon ami est resté quelque part un peu cloîtré, prostré, parce que dans sa blessure, dans sa souffrance. Nous avons peut-être une certaine difficulté à entendre ça, et je voudrais vraiment, d'abord, avant de passer à l'étape suivante de ce podcast, insister sur l'importance de comprendre l'invitation. Vous recevez un carton d'invitation, vous vous y rendez à la fête, à la rencontre, à la réunion. Quand quelqu'un vous dit « Ah, j'en ai marre !» il vous envoie un carton d'invitation. Quand quelqu'un vous dit « Ça me saoule !» il vous envoie un carton d'invitation. S'il ne voulait pas vous envoyer un carton d'invitation, il ne vous dirait rien. Il ferait mine de, comme sur les photos, un beau sourire, en disant « Voilà, toi, je ne vais plus te voir et je fais comme si tout allait bien, mais sache que je t'ai rayé du cercle de ma proximité amicale, familiale ou que sais-je. » Vous voyez ? On est dans une véritable hypocrisie. On va jouer un rôle pour s'assurer que la distance sera respectée. Donc, quand vous aurez pendant les fêtes des moments qui ne seront pas forcément évidents et que vous voyez que quelqu'un vous envoie un carton d'invitation, rendez-vous à l'invitation. Allez le voir, allez à sa rencontre et dites-lui, prioritairement, puisque c'est l'autre qui a été blessé, donc c'est plus facile pour celui qui a été, entre guillemets, le blessant, de faire la démarche parce qu'il n'a pas mal, lui, a priori, alors que l'autre a mal, d'aller vers celui qui a mal et de proposer de se mettre à l'écoute du chemin qu'il aurait voulu employer. Attention, que vous ayez tort ou raison, je m'en balance. La question n'est pas de savoir, oui, mais il a mal, mais c'est parce qu'il débloque. Non, non, c'est complètement égal. Celui qui a mal est prioritaire. C'est sur lui qu'on va centrer l'attention. Parfois, ça peut être pervers, mais là, je voudrais quand même pas rentrer dans cette approche pervers, même si je vais l'illustrer juste de manière ponctuelle, concise, c'est que le pervers pourrait avoir tendance à manifester sa douleur pour centrer l'attention, pour qu'il devienne le centre de l'attention, qu'il soit important, etc. Ça peut arriver dans votre relation amicale, je ne voudrais pas l'évoquer ici, je voudrais vraiment qu'on soit dans une démarche dans laquelle si quelqu'un a mal, on se dise « j'y vais ». Même s'il est pervers dans sa démarche, on verra ça une autre fois, ou peut-être déjà vous pouvez aller écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, les rendez-vous sur l'importance de couper les ponts, j'ai besoin de couper les ponts, comment renouer le dialogue, etc. Vous allez voir que j'évoque des éléments sur le fonctionnement pervers. Mais là, je voulais rester dans une approche, on va dire, saine, dans laquelle la personne m'envoie un carton d'invitation. Je réinsiste sur le fait que la personne n'est pas consciente de ça. Ça veut dire que je n'attends pas qu'elle me verbalise. Écoute, j'aimerais bien qu'on s'entende mieux. J'aimerais bien que tu me... Non, il n'y a pas d'attente de formulation de demande. Le fait qu'elle dise « arrête, ça suffit », c'est une invitation. Ou tu me saoules, il y en a ras-le-bol, ou j'aimerais que tu ne parles pas de ce sujet, c'est une invitation. Et on va pouvoir répondre à cette invitation. Je te demande pardon, je ne pensais pas qu'aborder ce sujet te blesserait, ou bien effectivement je savais qu'aborder ce sujet ne te plairait pas, je suis vraiment désolé pour ça, qu'est-ce que tu voudrais que... Voilà. Et on peut éventuellement tendre la perche pour permettre à la personne de s'exprimer. Encore une fois, c'est généralement pas à ce moment-là qu'il est préférable qu'elle s'exprime, mieux vaut aller présenter ses excuses, demander pardon, et finalement se retrouver tout de suite sur une voie commune dans laquelle on va pouvoir échanger. On est sur la suite de « j'ai envie de mieux vivre la critique ». Et pourquoi la critique nous pique autant que ça? Alors, allez réécouter l'épisode 1 et 2, mais c'est aussi parce que ça ravive une blessure ou des blessures. Comment fonctionne notre système, notre cerveau émotionnel et notre cerveau cognitif sur ce phénomène des blessures? Cerveau cognitif qui se vit après 3 ans, ça veut dire qu'on a presque la date, le jour, le lieu où la personne nous a dit ceci et cela, et on se souvient de manière très claire qu'elle a dit ce mot, à suite, etc. D'accord ? Cerveau émotionnel, on ne se souvient ni de la date, ni du jour, ni de l'heure, sachant que nous n'avons pas de souvenir cognitif avant 3 ans, on est essentiellement sur le cerveau émotionnel, qui va se souvenir d'une ambiance, d'une émotion, d'une approche relationnelle, d'odeur, de bruit, de son, etc. Mais pas du détail. Donc le mix de ces deux fonctionnements du cerveau permettent de mieux fabriquer des souvenirs, mais vous comprenez qu'il est possible parfois d'avoir des souvenirs émotionnels sans souvenirs factuels. C'est très intéressant d'ailleurs de voir que les maladies neurodégénératives qui touchent généralement les seniors, mais qui ont tendance à gagner du terrain vers des jeunes, des personnes de plus en plus, ou de moins en moins âgées, on va dire, plutôt que de plus en plus jeunes, de moins en moins âgées, eh bien, remettent en mouvement cette, ou en lumière cette réalité. Ça veut dire qu'il est possible qu'une personne qui vit la maladie d'Alzheimer ait un souvenir émotionnel sans souvenir factuel. C'est pas parce qu'elle ne se souvient pas qu'on lui a dit ci et ça cet après-midi qu'elle n'a pas de souvenir émotionnel. Le souvenir émotionnel peut être tout à fait présent. D'ailleurs, ça peut se manifester par un comportement d'agacement, de bougonnerie, de « j'en ai marre ». Et elle ne saura pas dire pourquoi elle en a marre, parce que c'est un souvenir émotionnel. Elle va peut-être parfois le plaquer sur quelque chose qui vient de se produire, parce qu'elle se souvient juste là qu'on lui a dit ça, alors qu'en fait c'est en relatif à quelque chose qui s'est passé il y a une heure, une demi-journée ou hier, sur lequel elle n'a pas de prise cognitive. Il m'a dit ça, en faisant ça, il a fait ceci, etc. Donc cette prise de conscience du fonctionnement complémentaire de nos deux cerveaux, quand on est en pleine possession de tous ces moyens cognitifs, met en évidence le fait qu'il est même possible, même avec tous ces moyens cognitifs, d'avoir enlevé une partie des souvenirs cognitifs et de ne garder qu'une partie émotionnelle. Certes, il est possible d'avoir un souvenir cognitif sans souvenir émotionnel. C'est une forme de coma artificiel que l'on se propose pour se protéger de quelque chose. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui. Je continue sur les blessures. notre fonctionnement cérébral, cerveau cognitif, cerveau émotionnel, va enregistrer, emmagasiner, archiver des événements du passé, comme on fait maintenant sur le plan informatique, pour qu'il suffise de taper les premières lettres de certains mots pour que l'ensemble de certaines réalités historiques réémergent. Vous voyez ? Donc c'est comme si sur un logiciel, je vais taper, ou sur Google, vous tapez comment changer les couches, on va mettre C-O-U, et puis l'algorithme de Google va vous proposer le mot couche. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes ont tapé ça, donc ça fonctionne sur une approche algorithmique. Mais notre cerveau fonctionne de la même manière. Si quelqu'un vous dit que tu me fais voilà, notre cerveau va continuer la phrase. Et je ne vais pas vous la donner pour que vous puissiez vous dire, mais en fait, il y a plusieurs options possibles. Seulement, en fonction de ce que j'ai vécu dans mon expérience mémorielle, je vais continuer la phrase à l'insu de mon plein gré. Et je parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui, avec lequel on évoquait la période où on portait le masque. Vous savez, le masque pendant la Covid-19. Et de dire que nous avons besoin de compléter la phrase quelque part. Vous avez rencontré des gens que vous avez vus pour la première fois avec un masque, vous ne les aviez jamais vus sans masque. Pourtant, vous avez constaté que votre cerveau a eu besoin de compléter le visage, la partie du visage manquante, parce que le cerveau n'aime pas qu'il y ait un élément manquant. Donc il va imaginer la partie manquante, et vous allez vous en rendre davantage compte le jour où la personne enlève son masque, et vous dit ah oui, on va se rendre compte que l'image que nous avions complétée ne correspond pas à la réalité. Alors parfois, c'est peut-être possible, mais ça ne m'est pas arrivé. Si ça vous est arrivé, dites-le moi dans les commentaires, mais je serais très très étonné. Nous avons une tendance à vouloir compléter parce que nous avons une banque de données, de visages, de milliers, de dizaines de milliers de visages dans laquelle nous allons puiser pour aller compléter le visage manquant. Quand nous allons vivre un événement, nous avons une banque de données de millions d'événements, et donc entre autres de dizaines de milliers ou de centaines de milliers d'événements qui ont quelques onces de points communs avec ce que nous sommes en train de vivre. Il suffit que le début de l'événement que nous sommes en train de vivre ressemble à un ou plusieurs événements passés dans notre banque de données pour que nous complétions l'image avant même que le déroulé ne se complète et que nous soyons en mesure d'activer une blessure. Je précise que nous sommes seuls responsables de l'activation de la blessure. Alors, je ne veux pas dire que la personne qui me traite de tous les noms, qui me dit que je suis habillé comme un sac, ou que je vois rien, ou que ma bûche de Noël, c'est une honte, et que à ma place, jamais il aurait osé présenter ce dessert, n'a pas manqué de tact, et etc. Il n'y a pas de déresponsabilisation de l'autre. Seulement, dans mon ressenti émotionnel, dans ma blessure personnelle, je suis responsable de l'avoir déclenchée et personne ne peut la déclencher à ma place. D'ailleurs, avec le même événement, dans un contexte différent ou même dans le même contexte en changeant certains paramètres, on pourrait me dire « mais moi j'aurais honte de proposer une bûche de Noël qui ressemble à ça » et de bien le prendre. On se rend bien compte que ce n'est pas l'événement, la personne a dit que ma bûche était ceci et cela, qui fait que je me sens comme ça. C'est véritablement mon histoire du moment contextualisée avec ce que j'ai vécu à l'instant, tout à l'heure, hier, la semaine dernière, le mois précédent, etc. Et la perception que j'ai au moment M. Par conséquent, j'ai besoin de prendre conscience que je suis en relation avec ma blessure, avec moi-même, avant d'être en relation avec l'autre. J'utilise la relation à l'autre pour activer des choses chez moi, pour réveiller des choses chez moi, pour archiver autrement parfois des choses chez moi, pour régler des choses qui se trouvent en moi de manière à mieux vivre mon présent. Quand je prends conscience de ça, j'ai un autre regard sur la critique de l'autre. Et avant de vous laisser et de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce « Comment vivre les critiques pendant les fêtes » qui est là, dans la suite de ce que j'ai dit par rapport aux critiques qu'on a vues déjà les deux semaines précédentes, je voudrais que vous refassiez le point, reprenez ce que j'ai dit tout à l'heure, prenez note et finalement rencontrez-vous en prenant conscience que ce que vous allez mal vivre, ce que vous risquez de mal vivre, ce sont des temps de rencontre avec vous-même qui vont les enclencher, les déclencher, les réveiller, les faire exploser et que vous avez davantage besoin de vous rencontrer vous-même pour mieux comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez, ce que vous donnez à voir. Et quand vous réagissez en disant, mais comme je reprends l'exemple de tout à l'heure, ça me gonfle, arrête, ça suffit, que vous preniez conscience, que vous envoyez des cartons d'invitation. Puisque vous les envoyez, préparez-vous à recevoir l'autre dans un rendez-vous que vous lui proposez en lui proposant ce carton d'invitation. Avant de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Vous êtes resté jusqu'au bout de ce rendez-vous, alors bravo déjà. Ça veut dire que vous êtes conscient d'avoir besoin d'avancer, de progresser et peut-être aussi de partager ce progrès avec d'autres. Partagez aussi ce podcast, 5 étoiles sur les réseaux sociaux, un commentaire et puis cliquez sur partager, le petit carré en général avec une petite flèche qui monte pour le partager avec des personnes qui pourraient avoir besoin de ça et peut-être qui s'est préparé aux fêtes de Noël dans de meilleures conditions.